Stop, c'est parti.
Nous allons parler de l'information.
MTV. Les journalistes m'intéressent pas.
You are fake news.
Il est 9h40, vous êtes sur France Inter, soyez les bienvenus dans un nouvel Instant M.
Vous êtes en direct, allez-y.
Collection printemps-été 2018, Stella McCartney, c'est une grande styliste britannique. Son défilé décline le wax et autres tissus emblématiques de l'Afrique. Le lendemain, la presse grogne et parle de réappropriation culturelle, pointant au passage la quasi-absence de mannequins noirs sur le podium. Bref, de la mode africaine, mais pour les blancs. Mon invitée s'appelle Noémie Lenoir, elle est modèle depuis 20 ans. Elle doit à Jean-Paul Gaultier notamment d'avoir médiatisé des inspirations et des visages venus de partout et par exemple d'Afrique. Mais les stylistes africains, eux, pourquoi ne les voit-on pas? Qu'en est-il de la création et de la filière textile sur ce continent qui inspire les autres sans parvenir à produire?
L'Instant M. Sonia De Villers sur France Inter.
Bonjour Noémie Lenoir.
Bonjour.
Qui m'explique déjà que non, le wax n'est pas africain. Alors le wax, c'est africain ou c'est pas africain?
Alors, le wax, culturellement parlant, ouais. Ce n'est pas africain.
Ouais.
C'est hollandais, c'est fabriqué en Hollande. Il n'y a qu'une usine en Côte d'Ivoire où ils emploient 1200 personnes. Et voilà, donc le wax n'est pas africain, mais il est porté par les femmes africaines et
voilà,
il met la
ça.
Femme africaine en valeur. Pourquoi? Parce que les couleurs sont très représentatives,
les motifs.
De la joie, les motifs et de la femme très comment dire classe
ouais.
De la femme africaine. Et donc du coup, on pense que c'est voilà parce qu'on le porte depuis quelque temps. Mais les vrais tissus africains sont des tissus ancestraux.
Ouais.
Il y en a environ 200 en Afrique, comme le kente que je parle dans mon documentaire
ouais.
Ou le ndop.
Le ndop.
Voilà.
Parce que vous allez à la rencontre d'un
je
village.
Je vais à la rencontre d'un village où ils fabriquent le kente.
Ouais.
Et le ndop.
Le ndop.
Donc
ouais.
C'était vraiment
c'est
pour
beaucoup
mettre
plus
en
sobre
valeur.
En fait que le wax. C'est beaucoup plus sobre.
C'est
des tissus qu'on connaît moins, qui sont beaucoup moins médiatisés, justement beaucoup moins utilisés.
Exactement, ouais. C'est des tissus qui sont moins utilisés, mais qui ont une histoire culturelle très très imprégnée.
Ouais.
Donc c'est pour ça que j'interviewe un journaliste, par exemple, qui s'y connaît et qui me raconte le pourquoi du ndop et
voilà.
L'histoire
et
du ndop.
Femmes
et
ces
femmes qui
voilà.
Tissent pendant
Habille
des jours.
Nous Africa, 2h52. C'est diffusé demain soir à 21h sur TV5 Monde. Alors l'avantage avec TV5 Monde, c'est qu'ensuite ce sera multidiffusé dans le monde entier. À vous d'aller chercher en fonction de là où vous nous écoutez,
voilà.
Quelque part dans la francophonie. Vous vous jetez sur le site de TV5 Monde et vous pistez Noémie Lenoir. On est mardi matin, il y a Xavier Delaporte à mes côtés qui va nous parler tissu. Non, il ne va pas nous parler de tissu parce que la fenêtre de la porte en général, elle s'ouvre sur un monde dématérialisé et numérique. Alors ce matin, Xavier.
J'ai parlé de notre avenir à ceux, à nous qui parlons et à vous qui nous écoutez. Vous savez que les enceintes connectées sont aujourd'hui commercialisées principalement par Amazon, son petit nom c'est Alexa, par Google, Apple, mais en fait tout le monde s'y met. Alors vous les posez chez vous, ces enceintes, elles répondent à votre voix et exécutent ce que vous leur demandez. Le marché est en pleine explosion et il est fort possible que bientôt elles s'imposent dans nos foyers et ailleurs, comme le smartphone s'est imposé dans nos poches. Et ça, à nous autres qui faisons de la radio et pour vous autres qui l'écoutez, ça nous pose un sacré problème. Que se passera-t-il le jour où, pour nous écouter, vous ne passerez plus par un poste ou l'application France Inter, mais par une enceinte connectée? Alors imaginons quelques cas. Certains d'entre vous
allons-y.
Diront à leur enceinte « Alexa, mets-moi Inter ». Bon, Alexa vous connectera au flux d'Inter, c'est simple, ça ressemblera à la radio traditionnelle. Certains diront « Alexa, mets-moi le dernier flash d'Inter ». Alexa lancera le podcast du dernier flash d'Inter, ça ressemblera à du podcast de rattrapage, assez simple. D'autres diront « Alexa, mets-moi les infos ». Ah, alors là déjà c'est plus compliqué. Quelles infos?
Ben ouais.
Hein provenant de quelles sources? Hiérarchisées par qui? Alors on peut imaginer que certains fabricants d'enceintes passeront des accords préférentiels avec certains médias. Mais sur quelle base? Pour combien de temps? Sous quelles conditions? Bon, tout ça reste à définir. Et puis d'autres encore diront « Alexa, c'est quoi les dernières infos sur, par exemple, le grand débat ?» Ah, bah alors là, c'est encore plus compliqué. Qu'est-ce qui vous donnera à entendre la machine? On peut imaginer qu'elle vous fabriquera une sorte de best-of de ce qui est disponible sur la question. Mais selon quels critères sera établi ce best-of? Comment faire, par exemple, pour nous, pour que ce soit les contenus d'Inter qui remontent? Très très compliqué. Ouais. Alors pendant que nous, on continue à faire de la radio à la papa et à la maman, toutes les directions du numérique de toutes les radios du monde s'attellent à ces questions. Mais c'est pas si simple de discuter avec Amazon, Google et Apple et plein d'autres intermédiaires dont les intérêts ne sont pas toujours les mêmes que ceux de Radio France. Alors le risque n'est pas forcément que nous, on disparaisse. Quand on regarde l'histoire des médias, il est rare qu'un nouveau média fasse disparaître ceux qui l'ont précédé. La radio n'a pas tué la presse écrite, pas complètement. La télé n'a pas tué la radio. En revanche, on assiste à des configurations et des reconfigurations. Alors quelles reconfigurations peuvent se produire avec les enceintes? Par exemple, l'hyper-personnalisation de l'info. Pourquoi? Parce que ces machines, elles amassent un nombre considérable de données sur vous qui les écoutez, qui les avez chez vous. Et que ces données, elles sont moulinées par l'intelligence artificielle. Ce que vous écoutez, quand vous l'écoutez, où vous l'écoutez, pendant combien de temps. Et donc la tentation, elle peut être forte pour tout le monde de vous fournir les informations qui proviennent des sources dont la machine sait que vous voulez privilégier, celles qui vous font le plus réagir, un peu déjà comme le font les réseaux sociaux. Je réagis mieux à l'info locale, et ben on me donne de l'info locale. On s'aperçoit qu'au bout de 30 secondes, j'ai toujours tendance à solliciter mon enceinte, et ben on me donne à entendre que des contenus de moins de 30 secondes. C'est l'hyperfragmentation de l'info, et ça c'est un risque. Et puis une autre conséquence possible, que les codes changent. Par exemple aux États-Unis où il y a beaucoup d'enceintes déjà, On a constaté que les usagers d'enceintes, parce qu'ils interagissent avec leur machine, s'attendent à ce qu'elle leur parle différemment de la radio classique, de manière plus proche, plus adressée, plus conversationnelle. C'est ça qui est peut-être le plus fascinant dans cette histoire. Au-delà des questions techniques et commerciales, c'est toujours le langage, la manière dont on s'adresse les uns aux autres qui est en jeu. La télé ne parle pas comme la radio ne parle pas comme la vie. Comment parleront les enceintes quand elles seront partout? Et bien cette question, je la trouve passionnante.
Et bien continuons à en parler, à réécouter sur quoi votre avis? Sur franceinter.fr?
Peut-être, en attendant.
En attendant, hein, on est encore un peu dans la radio à papa. Allez hop.
L'instant M. C'est aussi en vidéo sur franceinter.fr.
Noémie Lenoir, je l'ai dit, elle est mannequin depuis 20 ans. Elle s'est rendue au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Cameroun pour le compte de TV5 Monde. Comment se fait-il que l'Afrique, qui inspire autant la mode européenne, produise elle-même aussi peu de vêtements? Vous avez rencontré Aïssa Dione, une grande dame au Sénégal, sans salarié, travaille pour elle. Elle crée des tissus d'ameublement, elle travaille pour Christian Lacroix, elle travaille pour Hermès par exemple.
Il n'y a plus de filière. Toutes ces choses-là existaient et ont disparu depuis une quinzaine d'années. C'est en fait des fripes qui ont créé à la chute du secteur textile. Donc partant d'un bon sentiment, l'on donne nos vieux habits à Emmaüs ou alors on veut faire des dons. Tout est envoyé pour rien en Afrique, du coup la production textile s'écroule.
Donc vous pensez qu'il faudrait arrêter ça?
Oui, carrément.
C'est intéressant, Noémie Lenoir, parce qu'on l'entend rarement. En effet, ça partait d'une bonne intention. Voici un continent inondé de tissus qui arrivent gratuitement et de tissus qu'on ne fabrique plus. Vous commencez vraiment à l'origine de la filière textile, c'est-à-dire vous commencez par visiter les ressources d'un continent. 400 000 tonnes de coton produit en Côte d'Ivoire, 200 000 au Cameroun. Et pourtant, tout part de manière brute à l'exportation. Plus rien n'est transformé.
Ouais, plus rien n'est transformé. Plus rien n'est exporté en Chine pour les filer et le dégrainer. Et donc, du coup, ça, on perd des emplois.
Ouais.
Les gens partent du pays pour pensent trouver l'Eldorado en France, du travail et tout. Alors qu'il suffirait juste de rouvrir des usines et de faire travailler, les Ivoiriens directement sur leur plantation, construire des usines.
En fait, d'ailleurs, c'est toute l'infrastructure qu'il faut remonter. Vous vous baladez dans des infrastructures fantômes parce que ont existé ces usines textiles en réalité.
En faisant ce documentaire, j'ai appris plein de choses aussi. Parce que quand Aïssa Dione raconte qu'il faut pas envoyer de vêtements, je trouve ça un peu. Ce que je veux, moi, c'est je donne pas mon avis. Je suis française, donc je vais rencontrer les gens et je vais leur demander ce qui se passe sur le continent. Je suis pas là à donner mon jugement. Les gens qui offrent leurs affaires, c'est aussi bien parce que il y a aussi des besoins, beaucoup de besoins. Donc voilà, moi quand je suis passée dans des marchés, j'ai vu des tonnes et des tonnes de jeans, mais ça peut aussi aider. Donc je suis là vraiment, je peux pas donner mon avis, je laisse la parole.
Alors, vous rencontrez aussi une autre grande dame. D'ailleurs, vous la surnommez la Coco Chanel africaine.
Oui.
Colette Soardot. Vous nous la décrivez un
Alors, Colette Soardot était une grande mannequin qui travaillait beaucoup pour Yves Saint Laurent.
Ouais.
Et elle a créé sa propre
Yves Saint Laurent, 1960. Hein, ouais. Les premières femmes noires
Exactement.
À défiler sur des podiums.
Il faut savoir que Monsieur Yves Saint Laurent était le premier à utiliser des noirs et il en mettait tout le temps dans ses défilés.
Ça il adorait l'Afrique. Ça a été des scandales. Hein.
Ça a été des scandales.
À l'époque, les clientes refusaient d'acheter des vêtements portés par des femmes noires, notamment les clientes américaines. Pour elles, c'était un repoussoir.
Ouais. Et d'ailleurs, on en parle rarement de ça, parce qu'on parle de Monsieur Yves Saint Laurent comme grand créateur européen, enfin français et tout. Mais oui, c'est vrai, il a beaucoup aidé les mannequins noirs. Et à l'heure d'aujourd'hui, elles sont presque une trentaine à avoir défilé pour lui. Je vous parle des années 60.
Donc Colette Soardot, elle a défilé pour Saint Laurent, ça vous le racontez pas dans le film.
Ouais. Elle a défilé pour Yves Saint Laurent, elle est revenue au pays, donc au Sénégal, pour créer sa propre marque.
Et ben on va l'écouter justement.
Pourquoi on ne vend pas, pourquoi on ne sort pas d'ici, pourquoi ça n'avance pas, pourquoi. Parce que c'est nous la création. Parce que tout ce qu'on a créé a été repris ailleurs. Ils ont plus de moyens que nous. Nous, on fait les créations et eux, ils vendent.
Et c'est d'ailleurs ce qu'on peut constater, c'est-à-dire que la mode africaine, elle est très présente en termes d'inspiration. Beaucoup, beaucoup, en France, à Londres, en Italie, etc. Et en même temps, elle est absente des défilés parisiens. C'est-à-dire qu'on emprunte beaucoup, on se réapproprie beaucoup, mais les stylistes africains, eux, ils ne sont pas là. Il y a même des militants, il y a même des gens qui se sont engagés. Eux, ils parlent de décoloniser la mode. C'est-à-dire qu'on arrête de se réapproprier ces tissus, ces bijoux, ces matières et qu'on fasse monter vraiment les créateurs africains.
Mais justement, maintenant, c'est à l'Afrique de surfer dessus.
Ouais.
Il faut qu'ils prennent de l'avant aussi et qu'ils, justement, c'est pour ça que j'ai interviewé aussi Célie Rabican, Loza Malambo, Kentek Gentleman, qui sont des jeunes, qui sont sur les réseaux sociaux et qui veulent que l'Afrique soit mise en avant dans la mode.
Ouais.
Donc ça, ils vont le faire, ils vont réussir et toute chose prend du temps. Et que justement, ces grands designers, Olivier Rousteing, nous avons Virgil, nous avons Edwin dans le Vogue anglais.
Alors, ça change, ça bouge. Ma chère, vous parlez un langage extrêmement codé. On va recommencer.
Oui,
Virgil Abloh, Virgil Abloh, il est le directeur artistique de la mode homme de Louis Vuitton. Il est d'origine ghanéenne, c'est ça?
Exactement. Et il avait aussi, sa propre marque qui s'appelle Off-White.
Ouais.
Qui est suivi par des millions de followers et qui cartonne aux États-Unis et dans le monde entier. Quand j'ai fait le défilé, mon fils il m'a fait « T'as fait le défilé à fond ?» Ouais, c'était il y a deux mois.
Edwin Henifoul, c'est le directeur artistique du Vogue britannique, si je ne m'abuse. C'est la première fois qu'un homme est directeur artistique du Vogue. En plus, il est noir. Lui aussi, il est d'origine ghanéenne.
Ouais.
Il a bien bousculé les choses.
Il a bien bousculé les choses. Il a mis beaucoup de femmes noires sur la couverture du Vogue. Il faut savoir aussi que ma première couverture, c'était le Vogue français.
Ouais.
Et c'est Karine Rothfeld qui m'a mis dessus.
Ouais, donc qui était la directrice artistique. Ouais,
il faut aussi savoir que dans la mode en France, il y a des gens qui ont cru aussi
Mais vous, c'était il y a 20 ans, Noémie
Lenoir.
Vous, c'était il y a 25 ans.
25 ans. Ouais. C'était très dur, il y a 25 ans. C'est pour ça que je suis partie
c'était
aux États-Unis.
C'était très dur pour les femmes métisses comme vous.
C'était dur parce que on mettait pas de noirs et de métis. Ça arrive que maintenant en France, hein. Il faut pas. Moi, j'ai fait la couverture du Vogue français, c'était en 2009.
Ouais.
Donc déjà, ça commençait à bouger grâce à des personnes comme Karine Rothfeld.
Ouais.
Donc
et
ça avançait, mais maintenant,
juste
on en voit dans tous les magazines.
Il y avait eu un numéro qui a fait date dans cette histoire-là. En 2008, il y avait eu un Vogue Italia.
Oui, de que des femmes noires.
Que
je
des
l'avais
femmes
fait
noires.
Aussi.
Vous l'aviez fait,
oui,
vous y
je l'avais
aviez
fait aussi.
Participé.
Exactement. Ouais. On était 12. Oui, c'est vrai. Il y avait le Vogue Italie qui avait fait ça. Et donc, du coup, c'était un honneur pour moi de. Donc, du coup, on me considérait vraiment comme une femme noire.
Mm-hmm.
Donc, moi, dans la mode, je suis une femme noire. Je fais partie du quota qui existait aux États-Unis il y a 25 ans. Il fallait mettre une femme noire. C'était le quota. Il y avait pas et donc du coup même si j'étais métisse et ben ils avaient leur quota.
Ils avaient
donc
leur quota.
J'ai vraiment eu de la chance aussi.
Et vous trouvez que ça a beaucoup changé parce que
Mais
par exemple il y a une jeune mannequin qui vient juste de devenir Angel, c'est-à-dire ange dans les défilés de lingerie de Victoria's Secret elle est noire et elle a pas sa langue dans la poche. Il y a 2 ans, elle tweetait en pleine Fashion Week à Londres, il y en a marre, je suis sélectionnée pour des défilés, au final, je suis la seule qui défile pas parce que le créateur a son quota, il a son visage noir, il a son corps noir pour le défilé, et puis c'est tout.
Vous savez, à mon époque, c'était la mode des Brésiliennes.
Oui.
Après, il y a eu la mode des Asiatiques.
Oui.
Après, il y a eu la mode des Russes.
Oui.
Donc maintenant, on est sur la mode des Noirs.
Mm-hmm.
Le seul problème, c'est que, à l'heure d'aujourd'hui, c'est la première fois qu'il y a une mode de femmes noires.
Oui.
Et il faut pas que ça soit juste une mode, en fait. Parce que les Noirs consomment autant que les Blancs, en fait.
Ouais,
il faut pas
que ça.
Mais on ouais. croit que le continent est un continent très, très pauvre.
Mm.
Mais c'est sûr qu'il y a plus de pauvres que dans le reste du monde.
Ouais.
Mais il y a des gens qui ont un pouvoir d'achat. Le pays est très, le continent est très jeune.
Ouais.
Nous, on est un continent de vieux. Donc, du coup, dans quelques années, ils sont vraiment dans le digital. Il y a une puissance qui est en train de monter là-bas.
Justement, tous les jeunes créateurs que vous interviewez, il y en a une qui est habillée Beyoncé, qui est une des grandes reines de la pop musique américaine, qui est noire. Il y en a un autre qui vend à New York, qui vend également
mais ils sont tous
à Londres et à Berlin, qui reviennent en Afrique. Vous interviewez aussi alors un grand monsieur qui s'appelle Alfadi, qui a monté le premier festival international de la mode en Afrique. D'ailleurs, c'est intéressant, Noémie Lenoir.
Ouais.
Il dit en Afrique, pas de la mode africaine, parce que ça veut rien dire
alors,
la mode africaine.
Exactement, parce qu'un jour j'étais avec un ami et il me dit tu vas où là? Je fais, je vais en Afrique. Il me fait, ouais, quand tu vas en France, tu dis tu vas en France ou tu vas en Europe? Et là je l'ai regardé, j'ai fait, ah ouais, bah t'as raison. En fait, chaque pays est son propre
pays.
Et comme dit Aïssa Dione,
il n'y a pas de marché africain.
Non, ils travaillent pas ensemble.
Non, il n'y a pas, ouais.
Non. Donc du coup, ça, pour exporter, pour se battre face à tout ça, c'est compliqué.
C'est pas une puissance. C'est pas une puissance homogénéisée d'un
mais
point de vue économique.
Mais ça va changer. Ça
marché.
Va changer.
Alors, Alfadi, voilà ce qu'il vous raconte.
Il y a un problème qu'on appelle l'immigration. L'immigration, qui est une chose, les gens fuient. Les grands créateurs, les jeunes créateurs, ils n'arrivent pas à trouver de travail chez eux. Ils crient, ils courent. Aujourd'hui, on veut les stopper en les formant, en leur donnant des bourses pour qu'ils puissent rester et créer de l'emploi chez eux, dans le cadre de la mode. Le combat que nous menons, c'est aussi la productivité. Parce que quand on crée, il faut produire en centaines de milliers pour qu'on puisse conquérir le monde. C'est un petit peu cette chance que nous voulons avec les bailleurs de fonds. Nous voulons aussi avec les banquiers et que les financiers accompagnent les créateurs africains. Le combat que l'Afrique et le monde noir en général n'a pas, c'est qu'on n'est pas écouté par ses décideurs au niveau de la mode. L'Europe est écoutée parce que le luxe européen existe et le luxe africain existe avant le luxe européen. Mais malheureusement, les financiers ne nous suivent pas parce qu'ils ne donnent pas une visibilité à l'Afrique. Parce que l'Afrique, soi-disant, est un continent pauvre et nous, on n'achète pas ça.
Voilà. Voilà, c'est extrêmement intéressant. Vous rencontrez aussi Pateo. Il faut raconter qui est Pateo parce que autant Alfadi vous dit les banques ne nous suivent pas, les financiers ne nous suivent pas. Pateo vous dira à un autre moment de votre enquête, les pouvoirs publics n'y comprennent rien et ne nous suivent pas. Qui est Pateo?
Pateo est un Ivoirien qui habite en Côte d'Ivoire, mais qui voyage beaucoup et qui est habillé.
Il est né au Burkina Faso.
Il est
né
au Burkina. Ouais. Il est arrivé. Il avait 14 ans.
Ouais.
En Côte d'Ivoire, et il a habillé les grands présidents comme
Mandela.
Donc il dit que les présidents, j'aime bien parce qu'à un moment il dit, je sais pas si ça reste, mais il dit, oui, quand les mains sortent d'un costard et que la tête sort d'un costard, eh ben en fait on n'est pas blanc quoi. Donc il faudrait qu'ils consomment africains tous les présidents, parce que quand Mandela a porté la veste de Pateo, ça a fait un buzz.
Les chemises complètement bariolées. Enfin,
exactement.
Bref, c'est l'image qu'on a du président Mandela aujourd'hui.
Voilà.
C'est les vêtements de Pateo. Ouais.
Exactement. Et donc, ça a fait un buzz et tout le monde voulait. En Afrique, tout le monde voulait du Pateo. Donc, il a dû suivre derrière. Il avait toutes ses petites mains qui faisaient plein de vestes, plein de chemises. Et donc, c'est ça, en fait. Il faut qu'on porte et il faut qu'il porte et qu'il consomme africain pour que ça soit vu dans le monde entier.
Et lui, heureusement, il vous dit, malheureusement, les pouvoirs publics sur le continent africain ne comprennent pas que la mode et le textile sont des leviers de croissance.
Mais vous imaginez, vous imaginez que de la mode, on voit que l'extérieur de la mode. Mais l'intérieur de la mode, c'est comme en France, ça crée des emplois.
Ouais.
Nos usines en France se ferment aussi. Elles s'exportent. Notre savoir-faire s'exporte. On aurait pu très bien faire un H&F. Donc un habit nous France, parce que il y a aussi ça.
Parce
quoi.
Que ça se délocalise de plus en plus.
Et ça se délocalise. Et on va en Chine, on va dans des pays, voilà. Et eux gagnent des emplois.
Ouais.
Mais du coup, ça ferait moins de chômeurs dans le monde entier.
Merci beaucoup, Noémie Lenoir. Abinou Africa, je l'ai dit, 2 fois 52 minutes, tournée au Sénégal, en Côte d'Ivoire et en Cameroun. Et au Cameroun, ça finit par un feu d'artifice, ça finit par un défilé dans le désert. Mais ça, pour ça, il va falloir regarder. Merci beaucoup d'être venu à la radio ce matin. Bonjour, Ali Rebéi.
Bonjour, Sana de Villers. Bonjour, Noémie Lenoir.
Alors, parfois, les mots blessent plus que les actes.
Oui, comment se faire respecter en cas d'agression et de manipulation verbale, c'est le thème ce matin.
Ouais.
Comment faites-vous face aux agressions, insultes et manipulations verbales? 01 45 24
7000. Très bon sujet, parce que c'est vraiment difficile.